Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, chef de file de Place Publique et du PS aux élections européennes. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour votre premier grand jury, à mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro.
Bonjour,
bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI.
Bonjour.
Bonjour Christophe. Dans notre rubrique La question en plus, Raphaël Glucksmann, c'est Farine Benlaga qui vous interpellera, l'un des fondateurs de votre mouvement Place Publique. Et qu'il a quitté depuis, cela provoque quelques rires dans l'assistance, vous nous direz pourquoi. Mais il vous a quitté en même temps que Thomas Porcher. Et puis nous retrouverons en fin d'émission Marie-Pierre Haddad de RTL Net pour Questions Net, justement. Vos commentaires, vos questions à Raphaël Glucksmann, vous pouvez toujours réagir en direct, hashtag le grand jury. Alors Raphaël Glucksmann, ce grand oral est plus que jamais nécessaire parce que bon nombre de ceux qui nous écoutent, de ceux qui vous regardent aujourd'hui, ne savent pas du tout ou très peu qui vous êtes, si ce n'est le compagnon à la ville de Léa Salamé. Et ce n'est pas vous faire offense, puisque de le dire, puisque vous êtes jusque-là, vous étiez jusque-là non pas un homme politique, comme vous aspirez désormais à le devenir, vous étiez d'abord un intellectuel parisien engagé dans la lignée de feu votre père, le philosophe André Glucksmann. Engagé sur plusieurs fronts qui n'ont rien à voir entre eux, sur la complicité de la France dans le génocide sur le Rwanda, par exemple, ou en Géorgie, où vous avez conseillé son ancien dirigeant, un farouche ennemi de Vladimir Poutine. Cet épisode vous a d'ailleurs valu en son temps son lot de critiques sur un américanisme à tout craint. Mais ce n'est pas toutes ces critiques pour vous déplaire. Vous qui, par définition, aimez la contradiction, le débat, la joute verbale, vous serez bien sûr servi ici. Vous qui aimez aussi les défis, Raphaël Glucksmann, les plus risqués, peut-être perdus d'avance. Car depuis que vous êtes officiellement tête de liste aux européennes de votre mouvement Place Publique et du Parti Socialiste, vous rêvez de fédérer toute la gauche autour de vous, de Benoît Hamon et Yannick Jadot. Mais sauf miracle, c'est loupé. Tous deux continuent de vous ignorer superbement. Alors au final, n'ajoutez-vous pas de la zizanie là où elle régnait déjà en maître, pour servir une ambition, la vôtre. Dans l'un de vos meetings, d'ailleurs, vous avez même mentionné les chances de 2022, la prochaine présidentielle. Si, si, vous l'avez fait. Okay. Nous en parlerons, nous y reviendrons. Vous ne vous en souvenez pas, mais c'est le cas. Nous vous avons regardé, nous y reviendrons longuement, bien sûr, dans la seconde partie de cette émission. Mais revenons d'abord, Raphaël Glucksmann, sur la journée d'hier, l'acte 19 des Gilets jaunes. La première question vous est posée par Christophe Jacubizine.
Oui, avec un acte 19 de mobilisation qui s'est relativement mieux passé. On a entendu dans le journal qu'il y avait quand même eu quelques blessés. Est-ce que vous approuvez cette nouvelle dispositif sécuritaire avec des zones interdites comme les Champs-Élysées ou est-ce que vous considérez que c'est une atteinte à la liberté de manifester ?
C'est une atteinte à la liberté de manifester. Mais moi, ce qui me frappe depuis le début, depuis le 17 novembre, c'est à quel point on oscille entre une attitude répressive et une attitude de laisser-faire. Comme s'il n'y avait pas de doctrine, en fait, de maintien de l'ordre. Et quand on cherche des coupables, moi j'ai le souvenir d'Emmanuel Macron disant au milieu de l'affaire Benalla, en plein milieu de l'été, que la République des fusibles, c'était fini. Mais on est en plein dedans. Il y a eu une forme d'incompétence, d'impuissance au sommet de l'État, et on fait payer ça aux policiers. Moi je me souviens d'avoir écouté cette semaine un ministre de l'Intérieur sur une radio concurrente expliquer que la police ne suivait pas ses ordres. Alors je ne suis pas quelqu'un de très expérimenté ou de très âgé, mais je n'ai pas le souvenir que ce soit jamais arrivé en France.
Mais il s'est rattrapé depuis, Christophe Castaner. Hier, il a fait le boulot.
Hier il n'y a pas eu de grande casse et franchement, on s'en réjouit tous. On a une pensée quand même pour cette septuagénaire à Nice qui est entre la vie et la mort. Mais il n'y a pas eu de grande casse au cœur de Paris comme le samedi d'avant. C'est très bien, mais on oscille. On va voir ce qui va se passer samedi prochain et surtout, la vérité, c'est qu'il va falloir sortir de cette crise. Et la sortie de cette crise, ce ne sera pas une sortie simplement sécuritaire, ce sera une sortie politique. La crise, elle est d'abord sociale et elle exige des réponses sociales et des réponses politiques.
Et quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire, il y a quelques jours, dans une adresse aux militaires, « ne tirez pas », qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
Je ne pense pas qu'on soit au Chili en 1973 et je doute que les soldats français ne vont pas tirer sur la foule. Donc
il y a une exagération.
Il ne faut pas surdramatiser. Oui. Mais la vérité.
Est-ce qu'il a fait Jean-Luc Mélenchon? Il a surdramatisé, il a surjoué.
Il a surjoué, oui, bien sûr. Mais la vérité, c'est que c'est quand même un aveu d'impuissance grave et, je pense, une logique dangereuse que de se servir de l'armée pour suppléer les forces de maintien de l'ordre. On est dans un moment où on est face à une crise sociale. Et donc, il faut y répondre de manière sociale et politique.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, Raphaël Glucksmann, face à des casseurs? Vous pourriez être en responsabilité, alors au niveau européen peut-être, mais en tous les cas, vous êtes désormais un homme politique sur la place publique. Qu'est-ce que vous auriez fait contre les casseurs? Ou qu'est-ce que vous auriez préconisé?
On oscille, encore une fois, entre les laisser complètement agir. J'étais à la manifestation samedi où ça a dégénéré, j'étais à la manifestation pour le climat. J'ai vu une cinquantaine de casseurs arriver. Ils étaient habillés en noir, avec des masques, et ils étaient clairement là pour tout casser sur leur chemin. Donc, on oscille entre laisser faire ces groupes-là, et dans une autre manifestation, on a des gilets jaunes pacifiques qui se font tirer dessus au LBD et qui perdent un œil en allant manifester de manière pacifique. Donc, il y a un immense problème là. Il y a un immense problème d'incompétence.
Quand vous dites laisser faire, ça veut dire que vous pensez que la police ou le gouvernement a délibérément laissé les casseurs agir samedi dernier ?
Je ne suis pas un complotiste, je ne sais pas s'il y a une intention derrière. C'est un fait.
Laisser faire, ça veut dire qu'on les a laissé faire.
C'est une observation. Il y avait ces casseurs, il y avait de la police de 200 mètres plus loin, et ils agissaient, ils cassaient, et personne n'intervenait. Donc moi, je ne veux pas dire que c'était intentionnel. Ça peut aussi être le résultat d'une incompétence ou d'un dysfonctionnement dans l'échelle de commandement. Mais en tout cas, le fait est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui dit « La police n'obéit pas à mes ordres ». Je sais pas.
Mais il aurait dû démissionner. Est-ce que ça justifie une démission du ministre de l'Intérieur?
En tout cas, c'est inouï. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Alors après, je ne suis pas... Il y a une opposition pavlovienne. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on demande la démission. Mm-hmm. Moi, ce que je demande, c'est qu'on assume ses responsabilités. Et que la vérité, c'est que Emmanuel Macron, quand il y a eu l'affaire Benalla, il a dit « Il y a un seul responsable, c'est moi, venez me chercher, c'est fini la République des fusibles. » Et là, à quoi on assiste? Exactement à ça, à la répétition de cette République des fusibles. On va tout mettre sur le dos du préfet de police et on le renvoie. Mais ça ne résoudra pas le problème. Il faut une réponse politique. Alors, à une crise sociale.
Écoutez, je vous propose d'écouter Jérôme Rodriguez, qui est gilet jaune, un porte-parole certes autoproclamé, et qui a lui-même été blessé par un tir de LBD. Il vous interpelle.
N'avez-vous vraiment aucun levier institutionnel pour démettre de ses fonctions un président qui se permette de tirer sur son peuple et de le mutiler simplement de par le fait qu'on revendique et qu'on manifeste?
Des propos recueillis par Mathilde Guénégan et Benjamin Rey pour Le Grand Jury. Déjà, que répondez-vous?
Je n'ai aucun levier institutionnel, comme vous le savez. Mais moi,
Est-ce que certains réclament la démission aussi? Vous dites que c'est répétitif, mais en l'occurrence, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les manifestations.
Bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais défilé en me disant Macron, démission. J'ai un respect pour les institutions. Emmanuel Macron a été. Je combats sa politique, je combats son arrogance, je combats l'injustice de ses mesures. Mais Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans. Et donc, il faut qu'il reste au pouvoir pour 5 ans. Moi, mon seul objectif, c'est qu'il y ait une alternative qui émerge à Emmanuel Macron pendant ces 5 ans. Mon seul objectif, c'est qu'enfin, on n'ait pas juste un face-à-face entre, d'un côté, Emmanuel Macron et les libéraux, et de l'autre, les populistes. Mon seul objectif, c'est qu'il y ait une alternative sociale et écologique crédible qui s'affirme dans ce pays.
Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous avez expliqué qu'il était le dernier président de la Ve République?
Oui, je pense qu'Emmanuel Macron, en poussant à bout la logique de personnalisation du pouvoir, de verticalisation du pouvoir, eh bien, il a poussé à bout les logiques de la Ve République. Aujourd'hui, il y a un problème. En France, quand il y a une crise sociale, ça se transforme en crise de régime. Et il a voulu tout concentrer sur sa propre personne. Et donc, quand il y a eu une explosion sociale comme celle à laquelle on a assisté, eh bien, il s'est retrouvé seul. C'était le roi est nu. Et tout d'un coup, tout semblait ébranlé. Mais la République ne doit pas avoir donné l'impression d'être ébranlée quand il y a des manifestations et quand il y a une crise sociale. Pourquoi ça a dégénéré? Pourquoi on a eu cette impression comme ça de d'effondrement généralisé en décembre? Parce que les institutions de notre République ne font plus vivre le dissensus, le conflit en elles. Et donc le conflit, il arrive dans la rue. Il y a aujourd'hui 80% des sièges du Parlement qui sont concentré dans les mains d'un parti qui représente 25% de la population française. C'est un vrai problème institutionionnel. Et donc, je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron, voulant présidentialiser à mort, eh bien, il a mis fin dans la tête des gens à la Ve République.
Christophe Lacuisine.
Vous nous dites que la crise sociale aujourd'hui, c'est une crise politique, ce que vous voulez dire. Comment on fait pendant 3 ans pour vivre dans un pays avec une crise politique?
Mais c'est un immense problème. C'est pour
on
ça
dissout
que
l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut
je pense qu'il faut, il faut engager un chantier institutionnel en France. Oui. On va pas dissoudre.
Mais d'ici là,
on va pas dissoudre. Non, moi je pense. Excusez-moi, moi je suis quelqu'un qui respecte les institutions.
Donc il reste.
Je pense. Moi,
jusqu'en 2022 et l'Assemblée ne bouge pas.
Je pense que l'Assemblée nationale, les députés ont été élus pour 5 ans. Il faut arrêter tout le temps de tripatouiller avec tout. Les députés ont été élus pour 5 ans, le président a été élu pour 5 ans. Par contre, ce qu'il faut, c'est comprendre la gravité, la profondeur de la crise et donc préparer un changement profond de nos institutions. Et c'est pour ça, moi, quand Emmanuel Macron a appelé à un grand débat, j'étais pas contre. Parce que je pense qu'on a besoin d'un grand débat pour sortir de cette crise. Parce que la vérité, c'est que c'est pas simplement Emmanuel Macron. Alors, tout le monde sait que ce que je lui reproche, son arrogance, son injustice, mm-hmm. je pense qu'il a été... il a craqué l'allumette sur le baril de poudre, mais ce n'est pas lui qui a rempli la poudre dans le baril.
Donc il n'est pas responsable de la situation,
il n'est pas seul responsable. C'est 30 ans d'impuissance publique. Ouais. C'est 30 ans d'impuissance publique, cette crise. Mais simplement, quand on sait, comme Emmanuel Macron, qu'on est élu sur un baril de poudre, eh bien, la première chose qu'on fait, ce n'est pas de faire des cadeaux fiscaux aux riches et d'insulter les pauvres. C'est quelque chose d'extrêmement grave, ce qu'il fait.
Est-ce qu'il faut une 6e République quand même ou pas? Est-ce que c'est ça l'idée? Vous dites qu'il faut remettre le chantier institutionnel à plat. Est-ce que vous êtes pour une 6e République?
Moi, je suis, oui. Je sais pas le chiffre, 6e.
Bah,
oui,
on est en 5e. 5 bis,
on peut la réformer. Oui. J'en sais rien. Je vais pas faire un élément marketing. C'est pas un élément langage.
Non, il
faut une vraie réforme de nos institutions. C'est impossible de concentrer autant de pouvoir. Et vous savez, on est quand même la seule démocratie européenne à avoir une constitution qui a été taillée pour un homme, le général de Gaulle, qui en plus avait une stature extraordinaire. Les autres pays, ils ont des constitutions qui peuvent durer, quel que soit le personnel politique. Nous, depuis le départ du général de Gaulle, à chaque fois qu'il y a un président qui arrive, on dit « mais il n'arrive pas à rentrer dans l'habit ». C'est peut-être qu'il y a un problème d'habit aussi.
Christophe Jacubizine.
Justement, vous parlez de problème d'habit. Je vais vous poser une question très directe, mais qui n'est pas agressive. Mais vous avez dit il y a quelque temps que vous sentiez parfois, et que c'était le problème, plus chez vous, à New York ou à Berlin, qu'en Picardie. Donc, quelle est votre légitimité à vous pour répondre, pour parler aux Gilets jaunes? Est-ce que vous incarnez la gauche caviar ou la gauche des Gilets jaunes?
Non, mais j'ai dit ça exactement, le sens de cette phrase, et j'ai écrit un livre dessus.
Oui, en le regrettant, en disant non, mais c'est dommage qu'on parfois vous.
Les enfants du vide.
Non, mais c'est d'explorer la faillite de cette gauche qui a complètement délaissé justement les classes populaires et qui s'est sentie plus à l'aise en discutant dans des sommets de progressistes avec les progressistes new-yorkais que en discutant
vous
avec le peuple de France.
Mais
moi je m'inclus dans ces critiques. Mais moi je m'inclus dans ces critiques. Mais voilà, mais vous savez le problème.
Les hommes politiques changent aussi beaucoup.
Non, c'est pas juste changer. C'est pas ça le problème. C'est pas changer le problème. Parce qu'ils vont tous dire à chaque fois j'ai changé. Mais le problème, c'est que aucun d'entre eux ne dit jamais j'ai tort. J'ai eu tort. On s'est trompé. Et la vérité, c'est que la gauche, elle s'est trompée depuis 30 ans. Et donc, bien sûr que je m'inclus dans les critiques. Après, c'est facile sur Twitter de couper des phrases. Parce que j'ai l'honnêteté de m'inclure dans la critique. Généralement, quand vous avez quelqu'un de gauche qui parle...
Mais on l'a dit, vous dites que c'est bien le problème.
Non, mais généralement, quand vous avez quelqu'un de gauche qui parle, il explique que la gauche s'est trompée parce qu'elle ne l'a pas suivi. Moi, je m'inclus dans cette faillite du logiciel d'une gauche qui a placé les libertés individuelles au-dessus de tout et qui a oublié absolument tout projet d'émancipation collective et d'émancipation sociale. Une gauche qui n'arrive plus à parler au peuple depuis 30 ans. Mais ça, je m'inclus. Bien sûr, je m'inclus. C'est mon erreur à mon petit niveau. Mais leur erreur à leur grand niveau, des dirigeants de gauche.
Mais concrètement, comment, je vais vite, le bobo intello parisien que vous êtes, renoue le contact avec les Gilets jaunes. Comment vous le faites
De manière générale, avec les Français les plus modestes qui ne se sentent pas représentés par la gauche aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Est-ce que c'est dans la composition de votre liste? Est-ce que c'est...
Alors déjà, notre liste, elle ne va pas être une liste de bobos parisiens, je vous rassure tout de suite. Mais ensuite, ce n'est pas en 2 mois, il ne faut pas mentir. Moi, je ne viens pas là pour vous dire, en 2 mois, on va résoudre ce problème qui se pose à la gauche depuis 30 ans. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais à part ça, je vous invite, et je serais ravi que vous veniez avec nous, lors de nos conférences à Dunkerque ou à Amiens, et vous verrez qu'il n'y a pas que des bobos parisiens qui nous rejoignent, et que cette aspiration, eh bien, à réellement porter une transformation socialement juste et écologiquement nécessaire de notre société, c'est pas une lubie de bobos du 10e arrondissement de Paris.
Mais vous avouerez que vous n'êtes pas le mieux placé pour porter cette parole-là aujourd'hui, cette parole de ceux qu'on voit dans la rue, ou que c'est plus compliqué pour vous au regard de votre parcours.
Et moi, je suis né, moi, du bon côté, justement, de la barrière socio-culturelle, du bon côté du gouffre qui est en train de se creuser. J'habite dans un arrondissement cosmopolite parisien qui a plutôt à se réjouir des bienfaits de la mondialisation.
Qui est le 10e arrondissement ouais. et qui s'est et beaucoup gentrifié.
Voilà, mais j'y étais même avant. la vérité, c'est que justement, il faut sortir de soi. De quoi on souffre aujourd'hui ? C'est d'une absence de structure collective, d'un délitement des structures collectives qui permettait de transcender les classes sociales. Aujourd'hui, il y a une sécession sociale qui s'établit. Il n'y a plus les syndicats qui permettaient un mouvement transcendant des classes sociales. Les partis politiques de masse se sont effacés. À l'époque, on pouvait appartenir à la SFIO, par exemple, en étant prolétaire en Picardie ou bourgeois parisien chercheur.
Oui,
et il n'y a plus ces structures-là, il n'y a même plus le service militaire, il n'y a plus aucune institution collective. Et donc, qu'est-ce que nous, on doit faire ? On doit revitaliser ces institutions collectives, redonner à la politique un horizon de transformation sociale, faire qu'elle s'adresse à nouveau, justement.
Oui, mais il faut
justement
connaître les Français pour cela. Et on a l'impression que vous allez commencer à les connaître dans le parcours de campagne que vous allez entreprendre dès demain.
Mais
à
je vous
Creil
invite,
pour votre
je vous invite, je vous
premier
invite,
déplacement,
mais non, mais
rappelez-vous. Bah, est-ce qu'on peut lancer une campagne sans connaître la France et les Français ?
Ce qui est bien, c'est que Creil, justement, j'y suis déjà allé pour soutenir les gens de Creil qui luttent contre la fermeture de cette maternité, ce qui est un pur scandale. C'est une maternité dans une ville extrêmement dynamique démographiquement qui ferme par décision du sommet de l'État et qui conduit des femmes à accoucher dans les urgences au milieu des toxicomanes et des gens en extrême détresse sociale. Donc, mais simplement, je veux juste vous dire quelque chose.
Vous connaissez les Français.
Mais ça fait... J'ai écrit un livre, justement, sur cette coupure en donnant la parole aux Français. Aux Français de Picardie, aux Français retraités de la sidérurgie en Lorraine. Et qu'est-ce qu'ils me disaient tous ? Mais c'est qu'on les a laissés s'enfermer dans une solitude. Et que la vérité, c'est que la gauche a sa part de responsabilité immense dans ça. Et j'ai écrit un livre dessus, précisément pour explorer ce qui, dans notre logiciel, poser un problème de fond. Pas simplement il faut adapter notre discours, retrouver des bons éléments de langage. Non, il y avait un problème de fond. Et c'est celui-là que j'ai exploré, justement, en écoutant les Français dont vous parlez, et qui me posaient des questions, et je n'avais pas les réponses.
Et vous vous sentez le meilleur porte-parole aujourd'hui ? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi, tout d'un coup, Raphaël Glucksmann serait le meilleur porte-parole de toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs rencontrées ?
Mais c'est pas simplement être porte-parole des souffrances, c'est être porte-parole d'un projet. Moi, vous savez, l'Europe...
Oui, mais pourquoi le meilleur porte-parole de ce projet ?
L'Europe, c'est l'histoire de ma vie, c'est la cause de ma vie. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans remodeler, refonder la légitimité de l'Union européenne. Je pense que l'Europe, c'est la solution à nos problèmes, justement. Et donc, c'est là-dessus que moi, je veux me battre.
Alors,
moi, je veux me battre pour une Europe qui ne démantèle pas les services publics, mais qui les préserve. Moi, je veux me battre pour une Europe qui est capable de protéger ses frontières contre les biens importés de pays qui ne respectent aucune norme sociale ou environnementale. Moi, je veux me battre pour un protectionnisme vert. Moi, je veux me battre pour que l'Europe, elle réponde aux problèmes des gens.
On va y venir, mais il y a des problèmes concrets en France, et c'est ceux qu'expriment aujourd'hui les Gilets jaunes. On va passer en revue quelques propositions concrètes. C'est le moment de questions express.
Le grand jury, question express.
Raphaël Glucksmann, quelques propositions. Je vous demande de répondre par pour ou contre. Réquisitionner des logements vides.
Pour.
Le référendum d'initiative citoyenne.
J'ai le droit de préciser pour encadrer. Et ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie de participation.
D'accord. Donc avec un menu restreint, va-t-on dire. Le revenu universel.
Moi, je suis pour philosophiquement. C'est un horizon de 30 ans. Et c'est un nouveau contrat social. Le revenu universel seul, ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait un nouveau contrat citoyen autour de cette mesure.
Et contrepartie, comme dirait Laurent Wauquiez.
Justement, le problème, c'est que j'ai dit personnellement, parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de notre projet pour l'Europe. C'est celui qui dit, je vais proposer dans la mandature qui vient un revenu universel à l'échelle européenne. Enfin, ce n'est pas sérieux. On sait très bien que les pays européens ne voudront pas.
La proportionnelle intégrale pour les législatives.
Je suis pour, en tout cas, l'introduction de la proportionnelle, ça c'est certain. Intégrale, ça supposerait aussi une refonte du Sénat.
Et enfin, une tranche d'impôt supplémentaire pour les revenus les plus élevés.
Et je suis totalement pour, et je vais vous étonner, vous savez que ça va arriver. Ça va arriver, et ça va arriver même aux États-Unis, le pays le plus libéral du monde occidental. Pourquoi ? Parce que Elizabeth Warren, Alexandra Ocasio-Cortez, tous ces nouveaux leaders du Parti démocrate ont compris que notre société est une sorte de cocotte minute et qu'il faut impérativement renforcer aujourd'hui, rétablir un sentiment de justice, que c'est insupportable et que la crise des Gilets jaunes en France, mais la crise de la démocratie libérale partout en Occident, elle s'explique d'abord par ce sentiment diffus d'injustice. Les riches ont fait sécession, les ultra-riches, et ils échappent désormais aux normes communes.
Bon, Raphaël Glucksmann, on vous entend, vous écoute, on est riche à partir de combien ? De quel salaire ?
Mais ceux qui étaient assujettis à l'ISF peuvent être considérés comme riches. Ils ont eu un grand cadeau fiscal de la part d'Emmanuel Macron. Et donc, il faut revenir dessus.
Donc, alors, c'est soit... Ouais. Vous n'êtes pas comme François Hollande disait, 4000 euros, on est riche, par exemple.
Mais non, mais en plus, c'est des petites phrases. Ce qu'il faut, c'est rétablir un sentiment de justice. Moi, vous savez, il y a un texte que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé dans la revue Esprit, en 2011, qui expliquait que quand on considérait l'impôt, il y avait deux approches. La fiscalité. Deux approches. Une première approche qui dit qu'il y a une compétition mondiale, il faut impérativement que tous nos choix soient dictés par la volonté d'éviter que les riches partent, les très riches partent. Et il y a une autre approche qui est que la politique fiscale représente notre désir d'un pacte républicain, sous d'un pacte républicain. Et que c'est cette approche-là qui est l'approche française et qu'il faut la préserver.
Oui, mais les riches
et qui signait cet article dans Esprit, dans la revue Esprit en 2011 ?
Macron, j'imagine.
Emmanuel Macron.
Mais les plus riches...
Je suis d'accord avec Emmanuel Macron de 2011, en tout cas.
Vous l'avez dit, les plus riches, ils sont déjà partis. Et si vous instaurez une taxe supplémentaire d'impôt sur le revenu, ce n'est pas les plus riches que vous allez taxer. C'est les classes très supérieures.
C'est pour ça que c'est un projet qu'il faut porter à l'échelle européenne. Et je suis désolé, c'est vraiment quelque chose qui émerge absolument partout. Alors certes, à gauche, mais qui émerge partout, en Belgique, oui. En Espagne,
donc
au Portugal,
ça monte,
et même, je l'ai dit, et même aux États-Unis, c'est le sens de l'histoire. Parce qu'à un moment, en fait, vous savez, l'histoire, c'est cyclique. Et donc, à un moment, il faut rétablir dans nos sociétés un sentiment de justice. Ça a été le cas aux États-Unis dans les années 30, avec le New Deal. Et c'était une réponse à une crise profonde. Nous vivons une crise aussi profonde. Une crise sociale.
Mais la France est déjà, vous le savez bien, le pays occidental où il y a le plus de prélèvements obligatoires.
Oui,
vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement quand il dit qu'il y a déjà trop d'impôts comme
C'est mal réparti. C'est mal réparti. Ce n'était pas aux plus riches qu'il fallait faire un cadeau fiscal. C'est mal réparti. Quand on fait une mesure en France, par exemple, une mesure qui a été faite sous le quinquennat précédent, le CICE, on l'a fait de manière indiscriminée. Et donc, bien sûr que pour des TPE, par exemple, il fallait baisser des charges. Mais simplement, aujourd'hui, quel est le principal bénéficiaire de ça ? C'est Total ou Carrefour. Or, eux, ils n'avaient pas besoin qu'on baisse des charges. Donc, il va falloir cibler. Et c'est pour ça qu'il faut, impérativement, pour sortir de cette crise des gilets jaunes, une refonte de la fiscalité.
Mais là aussi,
une fiscalité verte qui soit... Non mais je termine. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de questions sociales de manière abstraite. Il faut l'intégrer au grand projet qui doit être le nôtre, c'est-à-dire la transformation écologique de nos sociétés. Et simplement, ce qu'on a vu avec cette crise des gilets jaunes, c'est qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Les deux vont de pair. Et donc, il faut imposer une fiscalité verte qui soit juste, qui permette...
Une écotaxe.
Bien sûr, une écotaxe, d'accord. Mais dans un cadre global.
C'est ce qu'ont refusé les gilets jaunes.
Mais bien sûr, mais pourquoi ? Mais je veux dire, c'était même, je suis désolé, je ne suis pas Nostradamus et bien d'autres gens l'ont pensé, c'était même déjà écrit dans Les Enfants du Fuite qui est paru avant la crise des gilets jaunes.
C'est votre dernier
livre. C'est que si vous faites juste une mesure pour taxer le diesel sans taxer le kérosène, l'injustice, elle est criante. Si vous faites une mesure simplement pour taxer le diesel qui est nécessaire aux gens qui prennent leur voiture pour aller travailler sans taxer Total, eh bien, c'est injuste. Donc, ça doit être global. Ça ne peut pas être juste ciblant les consommateurs les plus modestes.
Christophe Jacubizine.
Dans vos propositions, effectivement, il y a cette idée de taxer le kérosène pour les vols nationaux, les vols domestiques.
Et les vols européens.
Les vols européens. Donc, ça veut dire que c'est une taxe qui ne pourrait être qu'européenne. Vous êtes d'accord ? On ne va pas demander à Air France de payer une taxe que les autres compagnies ne payent pas.
Mais c'est pour ça que c'est un projet européen. Et c'est pour ça que moi, je m'engage sur les questions européennes, parce que je vois bien tout cela. Ils sont en train de préparer 2022. Et justement, c'est vous qui l'évoquiez, mais en réalité, c'est l'Europe qui compte pour moi. Pourquoi ? Parce
mais
que
tout peut
tous
se passer
ces sujets-là,
à vous entendre, tout doit être concédé à l'Europe.
Mais
la fiscalité doit être un problème européen.
À chaque fois que vous voulez prendre une mesure en France, quand vous voulez prendre une mesure sociale en France, l'argument premier de tous les gouvernements, c'est de dire « Ah ben on peut pas parce qu'il y a la concurrence à l'échelle européenne. Ah ben on peut pas parce qu'il y a la règle des 3%. Ah ben on peut pas. » Donc le projet, il doit justement avoir lieu à l'échelle européenne. Il faut sortir les dépenses liées à la transformation écologique des calculs des déficits des 3% de Maastricht. Il faut mener une politique à l'échelle européenne qui vise à taxer les
plus riches. Vous dites qu'il faut, sauf que Raphaël, pour l'instant, tout le monde en Europe
n'est
pas d'accord avec vous. La patronne du
parti, la politique.
Oui, non, mais du parti chrétien-démocrate allemand a dit non, il n'y aura pas de SMIC minimum. Les Irlandais disent il y a moins d'impôts chez moi et c'est très bien comme ça. Cette Europe que vous voulez, elle n'est pas un peu mythique quand même. C'est pas l'Europe de la réalité.
Politique. Elle s'est portée en Belgique par l'homme populaire, l'homme politique le plus populaire de Belgique, qui est Paul Magnet, et qui s'est opposé, qui est connu en Europe pour s'être opposé au CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. C'est porté en Espagne, c'est porté au Portugal. Je veux dire, ça commence à monter. Les sociaux-démocrates allemands commencent à changer. Le Parti socialiste européen commence à changer. Et donc, il y a une vague comme ça. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Mais si on fait que des choses qui mettent tout le monde d'accord, on fait plus de politique. En fait, on fait du consensus de la raison. On écoute les marchés et les agences de notation peuvent dicter notre politique. La vérité, c'est que la politique, c'est l'affrontement de visions du monde. Donc moi, ce que j'espère, c'est que la vision du monde qu'on porte sera la plus puissante possible pour pouvoir justement engager un rapport de force. Mais c'est ça, la politique. Si on vous dit, oui, mais demain, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Bah oui, évidemment, demain, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Et c'est tant mieux. D'ailleurs, je suis très content qu'il y ait des gens qui ne partagent pas le même point de vue que moi. Sinon, on est en Albanie sous Enver Hoxha. Et tout le monde est fait semblant d'être d'accord, on finit tous en prison. Hein.
Christophe Jacubizine.
Une question concrète, justement, qui concerne tous les Français, la question des retraites et de l'âge du départ à la retraite. Le débat a été relancé par Agnès Buzyn cette semaine. Est-ce que l'idée de travailler plus longtemps pour pouvoir notamment financer la dépendance, c'est comme ça que le gouvernement le présente, en tout cas, ça semble être une bonne idée.
Alors, je précise que nous avons un sondage Harris Interactif pour RTL, Le Figaro et LCI, et pour le grand jury. Et les Français ont été interrogés sur la retraite à 65 ans pour financer justement la dépendance. 61% sont opposés à un report de l'âge légal de départ à la retraite. Ils sont aussi défavorables à un allongement de la durée du travail pour 62% d'entre eux. Et donc, vous, Raphaël Glucksmann.
Mais je suis opposé pour une raison simple, c'est qu'on a aujourd'hui un système de retraite qui, enfin, est à l'équilibre. Donc c'est pas une mesure qui est liée à une urgence, là. C'est une mesure qui est liée à une idéologie.
Il sera déséquilibré dans quelques années, on le sait très bien. Il y aura deux axes.
C'est pareil, ils ont dit pour 20 ans, il est à l'équilibre. Donc l'urgence de cette mesure, je ne la vois pas. Les mesures sur les retraites précédentes, leur argument principal, leur argument de vente, c'est si on ne fait pas ça, ça va s'effondrer tout de suite. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc cette fois-ci, c'est une mesure idéologique et d'ailleurs, elle ne fait pas du tout l'unanimité, y compris.
Et vous êtes pour un jour travailler supplémentaire, par exemple,
j'en ai souhaité. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis, moi, par exemple. Pourquoi je suis ? Moi, je suis pour qu'on récupère les 60 milliards ou les 80 milliards qui sont aujourd'hui dans des paradis fiscaux. Moi, je suis pour qu'à l'échelle européenne, on aille. Mais non, mais d'accord, mais il faut le faire. Tout le monde le dit. Personne va dire je suis pour l'évasion fiscale.
Ouais. Mais Bercy vous dit qu'ils font déjà beaucoup de choses contre l'évasion fiscale.
Ouais. Mais non, ils ne font pas beaucoup de choses. Vous avez vu la liste sortie par la Commission européenne, avec l'appui de la France, des paradis fiscaux. Il n'y a aucun des pays qui sont des paradis fiscaux en Europe. Non, mais c'est très simple. Vous avez vu l'attitude de la Commission européenne, par exemple, vis-à-vis de la Hongrie sur la question des droits élémentaires et de l'état de droit. D'accord ? Il y a une menace. Une épée de Damoclès qui pèse sur le gouvernement de Viktor Orban. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette épée de Damoclès. Parce qu'on considère qu'un pays qui ne respecte pas l'état de droit n'a rien à faire dans la grande famille européenne. Mais il faut faire la même chose sur les paradis fiscaux. Il faut qu'il y ait la même attitude. Alors, et il faut éviter que 500 000 personnes au Luxembourg invalident les choix fiscaux de 500 millions d'Européens. Enfin, je veux dire, c'est pas guévariste ou trotskiste de dire ça.
On suivra cette conversation dans la seconde partie. C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Raphaël, Farid Benlaga, producteur et cofondateur de Place Publique. J'ai décidé de quitter Place Publique comme 6 autres cofondateurs. Je l'ai fait notamment à cause de ton attitude et celle de ton groupuscule qui a noyauté le mouvement. Un noyautage antidémocratique, à l'inverse des belles promesses initiales, qui a abouti à un passage en force sans aucun vote, pourtant prévu pour valider une stratégie d'alliance aux européennes. À cela s'ajoute une action politique hors sol, loin des engagements citoyens. Alors Raphaël, toi qui m'as par exemple qualifié les gilets jaunes de fascistes, toi qui as milité dans un parti ultralibéral, comment fais-tu pour vivre avec autant de supercheries et contradictions politiques ?
Raphaël Glucksmann, la charge est forte.
Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ?
Voilà, votre mouvement Place Publique est aussi un mouvement politique avec ses dissidents dorénavant.
J'ai jamais traité les gilets jaunes de fascistes, jamais, jamais, jamais. Mais pour répondre à cette question, un groupuscule, ils sont partis à 6 et nous, on est un groupuscule qui contrôle un mouvement. Je veux dire, c'est d'un ridicule, mais c'est d'un pathétique total. Il y a aujourd'hui un choix qui est largement majoritaire, qui était de rassembler au maximum à gauche et d'inclure toutes les forces qui étaient d'accord avec nos projets et nos combats communs. Et ensuite, il va y avoir une validation de notre liste par nos adhérents de manière totalement claire. Et donc, là, j'avais eu le mandat de créer une liste d'union. On fait cette liste d'union. Il y en a qui ne sont pas d'accord. ils partent, mais j'entrerai pas dans plus de polémiques.
Voilà pour la réponse. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury de Raphaël Glucksmann.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le chef de file de Place Publique et du PS aux élections européennes, Raphaël Glucksmann. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Christophe Jacubizine de TF1-LCI et Guillaume Roquette du Figaro qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Le Sénat a décidé cette semaine de transmettre à la justice le cas de plusieurs collaborateurs de l'Élysée dans l'affaire Benalla. Est-ce qu'il a eu raison?
Oui, pour une fois qu'en France, il y a effectivement une séparation des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Pour une fois qu'on a une institution qui tient son rôle, qui puisse... vous savez que le pouvoir, c'est Montesquieu déjà, le pouvoir s'oppose au pouvoir et c'est ça qui permet la démocratie. Et donc le pouvoir législatif, là, s'oppose au pouvoir exécutif et le met sous surveillance quand sa conduite n'est pas exemplaire et n'est pas conforme aux institutions. C'est bien.
Pour
c'est
une bien. Fois, c'est pas un peu...
Là, en France, on a une tradition quand même moins forte d'équilibre des pouvoirs que dans d'autres démocraties européennes. Vous savez, en France, le pouvoir exécutif est quand même traditionnellement bien plus puissant que le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire. Donc là, c'est une évolution positive et je m'en réjouis.
Le Sénat que vous voulez transformer en assemblée citoyenne qui siégerait plus à Paris, si je vous ai bien lu, mais en province. C'est bien ça, Raphaël Glucksmann?
Ça, c'est dans mon livre. Après, c'est pas un projet politique.
Alors, est-ce que vous le porterez, ça?
Est-ce que je le porterai à l'échelle européenne? Je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet.
Non, mais dans les propositions que vous allez faire, on va certainement vous interroger. Est-ce que vous pensez que c'est un souhait d'ici?
Je peux juste vous dire une chose et le rappeler parce que vous n'êtes pas le seul à faire. En fait, on va faire une élection européenne. Là. Donc l'enjeu, ça va être des élections européennes, un projet pour l'Europe et pas un référendum pour ou contre Macron.
Mais
vous savez très bien que les
enjeux, vous le savez, les Français ont aussi, peut-être pour certains d'entre eux, voté pour des considérations qui seront celles de leur quotidien. Vous-même le disiez. Donc
L'Europe est importante pour leur quotidien, justement.
Alors, Christophe Jacubizine.
On parle un peu de laïcité, puisqu'on attend toujours le discours fondateur du président.
À l'échelle européenne.
Et comment?
De la laïcité à l'échelle européenne.
Mais c'est aussi une question qui se pose à l'échelle européenne.
Oui, parce que c'est des sujets qui sont traités de manière très différente selon les pays européens, mais qui en France posent des questions. Il y a eu cette polémique récente sur cette marque de sport qui commercialisait un hijab pour faire du sport. Sur ce sujet-là, par exemple, quel est votre point de vue?
Mon point de vue, c'est que c'est quand même... Vous m'interrogez sur un hijab à Decathlon, on peut nommer la marque, on va pas faire semblant, alors qu'on devrait parler de projets de transformation écologique et sociale.
On a été très critiqué pour avoir justement fait pression sur Decathlon.
Enfin, à mon avis, on devrait être critiqué, à juste titre, pour, dans un moment de crise sociale aussi forte, et dans un moment où, les scientifiques du monde entier nous disent... Attendez, non, mais laissez-moi finir. Les scientifiques du monde entier nous disent, attention, en 2030, on bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique et nous, on va s'écharper sur Decathlon qui met un voile pour les femmes qui veulent courir. Non, mais je veux dire, à un moment...
La question se pose par exemple de savoir si on doit exporter en Europe notre modèle de laïcité ou pas. Ça, c'est une question qui se pose aujourd'hui.
Si ce sujet a autant fait polémique, c'est que pour les Français, c'est un sujet qui les questionne.
Je pense pas honnêtement que la majorité des Français se soit arrêté de vivre sur la question du hijab chez Decathlon.
Mais quelle est notre identité? C'est important.
Bien sûr, mais alors moi je suis un fervent défenseur du modèle laïque, et un modèle laïque, c'est pas un modèle qui régule des enseignes privées qui décident de vendre ou pas des hijabs de course.
Il fallait les laisser faire.
Mais bien sûr, moi je n'ai aucune sympathie ni pour Decathlon, ni pour le voile, mais simplement c'est pas mon problème politique là.
On va passer 10 minutes ici
à discuter de Decathlon.
Sauf que ça sera certainement une thématique de ces élections.
Mais non, ça doit pas être une
thématique. Guillaume Roquette, c'est
différent l'identité. L'identité française n'est pas menacée par Decathlon quand il décide de faire ça. L'identité peut être une thématique politique importante. On peut avoir un débat. Parlez-moi, si vous voulez, même des racines chrétiennes de l'Europe, on peut en discuter. Mais la vérité, c'est que les élections européennes, ça va pas jouer sur le hijab de chez Decathlon.
Vous nous disiez dans la première partie, la gauche a un problème avec les classes populaires. Est-ce que c'est pas aussi à cause de votre gêne face à ces sujets de communautarisme?
C'est pas une gêne. Alors, parlons du communautarisme. Parce que pour moi, c'est deux sujets différents.
Le hijab, c'est le symbole de ça.
Mais moi, j'ai écrit un livre qui explique que le multiculturalisme, comme idéologie politique, nous mène dans le mur. Moi,
j'ai l'idée que chacun puisse vivre comme il veut.
Je suis un cosmopolite fervent. C'est-à-dire, je pense que la République française est universaliste, qu'elle a une histoire et qu'il faut respecter cette histoire. Et que cette histoire, c'est une promesse faite à tous les gens qui arrivent chez nous. Et que c'est cette promesse qu'il faut remplir et à laquelle il faut être fidèle. Alors maintenant, moi, je ne suis pas du tout dans une logique communautariste ou multiculturaliste qui est de dire chacun vit selon ses coutumes, sa culture sur le territoire de France. Ça, c'est un archipel de ghetto. Ce n'est pas du tout ma position. Mais ma position, c'est de dire qu'il faut qu'on renoue un projet collectif et qu'on arrête justement mais de se focaliser sur des hijabs chez des Décathlon.
Mais la question,
pour,
c'est
pour poser, ce... non, mais pour poser un projet commun.
Des règles à ceux qui nous rejoignent ou pas?
Mais bien sûr qu'on impose, enfin bien sûr qu'on a des règles, mais personne n'est en train de dire, enfin sauf peut-être quelques extrémistes du mouvement des indigènes de la République, personne n'est en train de dire qu'il ne faut pas de règles communes.
Donc mais là, vous savez très bien que ça divise la gauche, ces sujets divisent la gauche, c'est comme si vous ne les payiez alors que d'un revers de la main, alors qu'on sait que ce sujet-là eh bien, risque de s'inviter dans la campagne des Européennes. En termes d'identité de racine chrétienne de l'Europe, qu'est-ce que vous pensez de cela par exemple?
Voilà,
vous-même,
c'est un sujet européen,
dites-nous,
je vous remercie,
dites-nous, mais c'est aussi, mais tous ces sujets européens, tous ces sujets européens.
Mais j'ai pas, non, le voile de chez Décathlon, ça va, l'Europe va pouvoir survivre à ce débat.
En tous les cas, ça fait partie des sujets liés à l'identité.
Vous venez me poser une question, on va pas
revenir. Je vous écoute, on vous écoute.
Oui, l'Europe a des racines chrétiennes, elle a des racines grec aussi, j'y tiens, parce que c'est les textes fondateurs de l'esprit et de la civilisation européenne sont grecs, polythéistes. L'Europe a des racines chrétiennes, l'Europe a des racines multiples, et je trouve ça très bien qu'on en discute. J'ai pas de tabou là-dessus. Je pense que l'identité, ça doit être une discussion. Moi, je suis pas quelqu'un de gauche qui va dire on va jamais en parler, c'est pas important l'identité. Mmh. Je pense que le principal débat, ça doit être quel projet pour redonner du sens à l'Union européenne. Vous savez, pendant très longtemps, on a dit que la légitimité de l'Union européenne, elle se fondait dans les tragédies du passé, dans les guerres liées au nationalisme. Il y a 70 ans, il y a eu le fascisme et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on doit préserver l'Europe. Ça ne suffit plus, parce qu'un projet ne peut pas se fonder simplement sur la mémoire. Donc ce qu'il faut, c'est fonder maintenant la légitimité de l'Europe sur les tragédies, sur sa capacité à répondre aux tragédies présentes et à venir. Et d'abord sur la tragédie climatique et de la disparition de la biodiversité.
Alors, on va y dire une dernière question comme ça là-dessus. Est-ce que l'islamo-gauchisme est une réalité ou pas, Raphaël Glucksmann? Visiblement, ça provoque des réactions dans votre public, mais toutes les questions, vous allez être amené à répondre
à ces
questions.
Bien sûr,
je pense qu'il est normal qu'on vous le pose et on attend avec impatience vos réponses.
Mais ça représente quoi je ne sais pas si ça existe, l'islamo-gauchisme comme terme, mais ça représente combien de gens? C'est quoi? C'est les gens qui sont indigènes de la République, c'est 0,5%.
Certains ont dit que certains accusent Jean-Luc Mélenchon de porter ou en tous les cas chez certains insoumis. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que c'est de gauche irréconciliable là-dessus, sur ce thème-là, par exemple?
Non, je ne pense pas. Et puis, franchement, accuser Jean-Luc Mélenchon d'être islamo-gauchiste, vous savez que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas mon ami politique. On a des divergences extrêmement profondes. Notamment sur la question européenne, désolé d'être professionnel, hein, notamment sur la question européenne, mais c'est pas un islamo-gauchiste, Jean-Luc Mélenchon, enfin, je veux dire, où va le débat français?
Est-ce qu'il est pro-européen, en revanche, pour vous?
Ah, ça, c'est une vraie question.
Bon, alors attendez, à chaque fois, je vais noter quelles sont
les bonnes et les mauvaises questions.
Non, mais c'est une vraie question, pourquoi? Parce que souvent, on nous a dit, mais vous voulez faire, le rassemblement de la gauche, pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon? Et moi, je pense qu'il y a une légitimité à ce qu'il existe plusieurs offres politiques s'il y a des divergences de fond. Or, sur la question européenne, il y a une divergence de fond. Jean-Luc Mélenchon, il a plein de choses extrêmement intéressantes dans le programme de l'Avenir en commun, mais l'échelle européenne ne lui parle pas. Il ne comprend pas, à mon avis, que, justement, pour faire face au réchauffement climatique, pour réguler la mondialisation, pour mettre une amende à Google, on a besoin de l'Europe et que l'Europe, c'est notre avenir. Et donc, là-dessus, il y a une divergence extrêmement profonde. Et c'est tant mieux. Il y a un débat démocratique et il y a deux offres politiques qui existent.
Christophe Jacubizine.
Vous faites le rassemblement avec qui alors? Parce que ce n'est pas non plus avec les Verts de Yannick Jadot, ce n'est pas non plus avec Benoît Hamon, Génération. Donc, c'est quoi l'union de la gauche que vous incarnez?
On a rassemblé le Parti Socialiste d'abord. Ensuite, Nouvelle Donne, les initiateurs du pacte finance-climat, c'est quand même 2,5 millions de signatures. Ensuite, des personnalités nous rejoignent, comme la porte-parole de Génération, le mouvement de Benoît Hamon, Aurore Laluc.
Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vont vous rejoindre?
Bien sûr.
Lesquelles, par exemple?
Je vais pas vous le dire.
Dites-nous, vous pourriez avoir des gens plus connus. Nicolas Hulot, par exemple, vous dites que le climat est important, vous nous l'avez dit plusieurs fois.
On lance une dynamique, là, et on espère qu'elle va prendre.
Mais est-ce que vous lancez un appel à Nicolas Hulot? Est-ce que vous dites que pour vous, ça serait un appui important?
Dans la fondation même de Place Publique, il y a eu un moment déterminant, qui est le moment où Nicolas Hulot est venu à la radio nous expliquer qu'il devait démissionner parce qu'il y avait un problème de système, que finalement on ne pouvait plus concilier l'écologie et le libéralisme, que finalement le « et en même temps » du macronisme, confronté à la tragédie du réchauffement climatique, ça devient simplement une contradiction. Et que lui, Nicolas Hulot, aussi populaire fût-il, il était incapable de faire basculer les choses du bon côté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de mouvement pour le soutenir dans la société qui assumait ses principes et qui allait mener le combat. Et donc c'est notamment en l'écoutant qu'on a lancé ce mouvement.
Donc ce qu'il n'a pas réussi à faire, vous allez réussir à le faire vous.
Mais pas moi personnellement.
Enfin, vous, j'entends, vous et ceux qui vous suivent, mais qui représentent aujourd'hui, dans notre sondage, que nous dévoilerons en intégralité ce soir à 18h à Rix Interactive, pour nos antennes, 7%, vous prenez 2 points, Raphaël Glucksmann, par rapport à notre précédent baromètre.
On lance une dynamique, et il y avait comme ça une forme de désespoir des électeurs de gauche et écolo qui regardaient une scène complètement éparpillée et qui se disaient, mais à quoi pensent-ils ? Moi, je leur dis à quoi ils pensent. Ces leaders qui refusent le rassemblement, ils pensent tous à 2022. Et ils pensent tous à leur carrière en 2022.
Moi,
la seule chose
qui
m'obsède...
Yannick Jadot, par exemple, il pense à 2022.
Et la seule élection qui m'obsède, c'est les élections européennes, parce que c'est le combat de ma vie. J'aurais jamais été candidat à une élection autre qu'à l'élection européenne.
Ça sera votre seul combat politique.
Mais c'est mon seul combat politique. J'ai pas envie de faire une carrière politique, vous savez. Franchement, moi, j'étais très bien à écrire des livres et à en vivre, ce qui est une chance incroyable, et à pouvoir commenter la médiocrité des autres. C'est quelque chose d'extrêmement confortable, vous savez, enfin vraiment. Et quand on a décidé d'y aller, tout le monde est venu me voir en disant « Non mais, il n'y a que des coups à se prendre. Franchement, c'est une horreur, l'arène politique. » C'était beaucoup plus confortable d'attendre l'éparpillement de la gauche, la bérésina, et d'écrire un article dans Le Monde ou dans Le Figaro, d'ailleurs, le 27 mai pour expliquer à quel
pas
point ils sont tous nuls.
Mais
la vérité, c'est que je m'en serais voulu toute ma vie. Enfin, j'ai deux enfants, je vais leur dire quoi ? Je vais leur dire, il y a une montée du fascisme, il y a une montée des inégalités telles que nos sociétés sont des cocottes minutes, il y a le tic-tac 2030, la bascule dans l'irréversibilité de la catastrophe climatique, et moi j'ai fait des éditos dans Le Monde ou dans Le Figaro. C'est impossible.
Oui, mais Jadot tient le même discours que vous pour la liste écologique, Benoît Hamon pour l'autre liste.
Pourquoi vous ne mettez pas ensemble ? Ben, bien sûr qu'il faut.
Mais pourquoi vous ne rangez pas derrière
notre
eux
liste, elle est ouverte.
Mais votre liste, mais la leur aussi. Pourquoi vous ne dites pas aujourd'hui, écoutez, à Yannick Jadot, tu n'as pas, je crois que vous tutoyez, tu ne nous as pas rejoint. Là, eh bien, nous sommes prêts à te rejoindre. Est-ce que ça, c'est envisageable ou pas ? Puisque vous partagez, j'ai regardé aujourd'hui, il y a les propositions.
On partage énormément de choses. Et je peux vous dire...
90% de votre programme.
J'avais pas d'amis dans la scène politique particulière, sauf un, Yannick Jadot. Donc je vais pas mentir. C'est d'ailleurs celui avec lequel je me suis le plus engueulé depuis.
Et en plus, vous n'avez pas d'ambition présidentielle, donc vous pouvez être derrière sur la liste.
Moi, je vais proposer à Yannick Jadot, il y a un mois, justement, qu'il y ait un rassemblement, mais pas qu'il vienne derrière nous. Qu'il y a un rassemblement et que ce rassemblement il se fasse avec lui et sur le logiciel porté par les
Verts. Mais est-ce que vous proposez aujourd'hui de le rejoindre
notre
à nouveau
liste, aujourd'hui, elle est ouverte. Maintenant, on a lancé une dynamique et il y a une divergence stratégique. Je vais vous dire, soyons honnêtes, il y a une divergence stratégique. Yannick Jadot, il pense d'abord aux Verts et c'est notre engueulade depuis un an, mais en termes très courtois, je vous rassure, on est des gens bien élevés, mais il pense d'abord aux Verts. Aux Verts à Paris, au groupe Vert. Et moi, je crois, mais j'en suis convaincu, que l'avenir, c'est le mariage de l'écologie politique et de la social-démocratie. Et c'est le dépassement de la social-démocratie dans une social-écologie. On ne peut pas faire simplement avec les Verts. Il va falloir qu'on fasse une force qui soit beaucoup plus large que ça et qui inclut tout l'héritage de la social-démocratie. Aujourd'hui, tous, presque tous en tout cas, se réjouissent de la crise de la social-démocratie.
Mais c'est-à-dire que Yannick Jadot, il n'est pas suffisamment de gauche. C'est ça que je vous suis. Mais pas. En quoi il est
différent ? Je suis pas en train de dire. Moi, ouais. Je suis pas un videur de boîte de nuit qui regarde les chaussures et qui dit toi, t'es assez à gauche, toi, t'es à gauche. Je suis sûr que je suis pas assez à gauche
pour
beaucoup de gens.
Vous avez bien cette
comparaison. Mais je suis sûr que je suis pas à gauche assez à gauche pour beaucoup de gens. Et à gauche, il y a toujours un truc un peu dingue qui est de dire. T'es pas assez à gauche pour moi.
Bon, bah ça. Vous pointez Guy Roquette du doigt.
Non, c'est possible. Je voudrais pas vous tutoyer, c'était un tu général. Je sais que vous êtes pas assez de gauche pour moi, mais j'aurais mis le vous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas rentrer dans ce secteur, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est sur une logique où aujourd'hui, vu la faiblesse réciproque, enfin, je veux dire, vous dites qu'on monte dans les sondages, c'est très bien, mais on est encore à 7%, ce qui est pas assez.
À égalité avec Yannick Jadot, en effet.
Voilà,
c'est
donc,
pas.
Donc, vu la faiblesse réciproque, est-ce qu'on utilise ces élections pour se compter chacun dans son coin, se compter? Ou alors, est-ce qu'on décide que ces élections valent la peine de proposer enfin une alternative au match entre Macron et Le Pen ? Je pense que c'est terrible. Je pense que c'est terrible que Emmanuel Macron arrive et dise « Je suis le seul rempart pour l'Europe ». Non, Emmanuel Macron n'a pas le monopole de l'Europe. Mais il y a une autre vision de l'Europe qui peut s'exprimer. Nous, on veut la porter, mais pour la porter, ça serait mieux qu'on soit tous.
Un rempart, pardon. Vous disiez, contre les fascistes. C'est pas un mot anodin.
J'ai dit, ouais.
Oui, vous avez dit ça.
Est-ce que vous y mettez des partis comme celui de M. Salvini, comme celui de Mme Le Pen? Est-ce que vous les rangez sous cette manière?
Les partis authentiquement fascistes, c'est le Jobbik, par exemple, en Hongrie ou en Slovaquie, les gens qui défilent avec des portraits des leaders fascistes des années 30.
Donc le Rassemblement National n'est pas un parti fasciste.
C'est un parti national, populiste, nationaliste, qui est extrêmement dangereux. Et j'aimerais juste dire pourquoi aussi je m'engage. C'est que moi, je connais bien l'Italie. L'Italie, c'est pas un pays très loin. Hein. On parle pas de pays de l'autre côté du monde. L'Italie, aujourd'hui, est dirigée par un homme, Matteo Salvini. Et j'ai vu comment une société peut basculer. Matteo Salvini, c'est l'ancien leader de la Ligue du Nord. Avant, quand moi j'étais en Italie, il y avait une impossibilité totale à ce qu'un leader de la Ligue du Nord fasse le moindre rendez-vous politique dans le sud de l'Italie. Aujourd'hui, Matteo Salvini, quand il va dans un village du sud de l'Italie, eh bien, il y a la moitié du village qui se presse sur la place publique pour l'écouter, pour le toucher, parce qu'il symbolise quelque chose d'extrêmement fort politiquement.
Et qu'il applaudit, donc il se passe quelque chose.
Mais bien sûr qu'il l'applaudit, mais moi, c'est ce que j'essaie. Prenons au sérieux ce qui se passe. Prenons au sérieux. Ça sert à rien de faire des tweets sur la coiffure de Donald Trump ou sur le fait que Salvini est un fasciste. Non, il faut prendre au sérieux ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que Salvini, aujourd'hui, aux yeux de beaucoup d'Italiens, incarne la politique.
Mais Raphaël Glucksmann, vous voulez fédérer cette opposition. Et en même temps, il y a quelques jours à peine, vous disiez, on va ébranler, je vous cite, la classe politique. Il va y avoir un effet boule de neige. Mais vous le voyez venir, cet effet boule de neige? Très franchement, est-ce que vous renoncez pas, tout simplement, aujourd'hui, est-ce que Génération de Benoît Hamon et Yannick Jadot vous rejoignent? Est-ce que, une fois pour toutes, nous partirons sans eux et ça ne se fera plus et nous arriverons à les dépasser?
On avance. On fait campagne sur nos combats communs. On sait très bien que Yannick Jadot et Benoît Hamon, eh bien, ils partagent la plupart de ces combats ou tous ces combats.
Mais ils ne viendront pas avec vous.
Mais c'est plus mon problème, qu'ils viennent s'ils veulent. Mais quand on fait 6% aux élections présidentielles, la seule chose qu'on doit faire...
Comme Benoît Hamon.
Eh bien, la seule chose qu'on doit faire, c'est s'arrêter et réfléchir. Réfléchir et nous expliquer ce qu'on a compris de cette défaite. Moi, je veux dire, c'est pas moi qui étais candidat, d'accord? Mais j'ai voté pour Benoît Hamon. Et j'ai
vous avez fait
pensé,
sa campagne, vous avez fait son grand discours
pensé,
de Bercy.
J'ai écrit un discours et j'ai pensé vraiment qu'il y avait des bonnes idées dans sa campagne. Et donc, quand il y a eu ce 6%, eh bien, je suis rentré en moi-même, j'ai écrit un livre pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait plus à parler aux gens. Mais ce livre, c'est lui qui aurait dû l'écrire. Je veux dire, c'est lui qui aurait dû réfléchir.
Lui dit que vous êtes un coucou, que vous avez été libéral. Et c'est vrai que vous avez une tentation libérale, économiquement. Vous avez fait votre mue.
J'ai écrit un livre dessus. J'ai écrit un livre qui expliquait... Pourquoi cette gauche libérale à laquelle j'appartenais? Pourquoi ces gens qui pensaient, en termes de liberté individuelle, tout leur rapport au monde s'étaient trompés? Et comment la crise de 2008 et les suites de la crise de 2008, eh bien, nous obligeaient à réviser ce logiciel-là? Et donc, moi, j'assume...
Mais vous avez déjà beaucoup changé. Qu'est-ce qui garantit aux gens qui vous écoutent, Raphaël Glucksmann, que vous ne changerez pas encore d'avis et que vous ne redeviendriez pas éventuellement plus libéral en rejoignant, certains s'interrogent, les macronistes à l'Assemblée européenne?
Dès que Emmanuel Macron est arrivé sur la scène politique, j'ai expliqué publiquement qu'il y avait là un problème immense de mauvaises personnes avec le mauvais logiciel au mauvais moment de l'histoire. Et qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce dont nos sociétés ont besoin, c'est d'un souci de justice sociale, de justice salariale, de justice climatique et de renforcer ces liens de solidarité qui font une société. Je veux dire, moi, j'entends aujourd'hui que tout le monde méprise les corps intermédiaires. Et j'ai envie de dire aux gens, calmez-vous, parce que on ne fait pas une société démocratique sans corps intermédiaire, sans syndicats, sans institutions. Et donc, moi, je vous le dis très, très calmement, mais je pense qu'on est à un moment de bascule et qu'il faut aujourd'hui comprendre que le libéralisme est destructeur dans nos sociétés et que l'enjeu, c'est de rétablir ce sentiment partagé de justice collective.
On vous entend, c'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Claire Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Alors on a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi à ce que vous avez dit en direct pendant l'émission, mais il y a une question qui a été posée en direct sur la page Facebook de RTL. Francis veut savoir s'il y aura des gilets jaunes dans votre liste pour les européennes. C'est une question qui vous a été posée déjà dans cette émission par Guillaume Roquette, mais lui, il s'est étonné de ne pas avoir eu de réponse claire, donc il attend une vraie réponse.
Je suis désolé, ça m'arrive de zapper les questions, c'est pas intentionnel.
Franchement, vous avez l'occasion de
voir. La liste n'est pas constituée, donc je sais pas.
Est-ce que ça vous intéresserait en tout cas d'avoir des gilets jaunes?
Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des gens qui portent des combats. C'est pas simplement pour faire comme tout le monde et mettre un gilet jaune sur la liste Ça, c'est pas intéressant. Mais nous, ce sera une liste qui sera composée de gens qui ont porté des combats et qui entendent les porter au Parlement européen. Des gens qui ont porté des combats contre la surpêche, des gens qui ont porté des combats contre la corruption, contre les lobbies. Je vois ici Jérôme Carsanti dans le public, l'avocat d'Anticor. Je veux dire, il faut des combattants. Vous savez, le prochain Parlement, il y aura 150, 200 nationalistes. Il y aura toujours ces lobbies qui sont partout à Bruxelles. Et donc, on a besoin de combattants de l'Europe. Et c'est cette chose-là qui va déterminer la présence sur notre liste. C'est pas simplement de mettre un gilet jaune pour faire plaisir aux gilets jaunes.
Marie-Pierre Haddad.
Oui, une autre question, cette fois-ci, c'est Jean-Luc qui veut savoir si vous voulez baisser les salaires des députés européens. Juste rappel rapidement, avant imposition, la rémunération, elle est de plus de 8000 euros bruts par mois. Après imposition, on tombe à 6000 euros. Et en plus, il y a énormément de primes et d'avantages qui viennent s'ajouter. Est-ce que vous voulez supprimer ou pas, enfin baisser, pardon, le salaire des députés européens?
J'ai fait un truc que normalement, on ne doit pas faire, mais je vous jure, j'ai jamais réfléchi à la question. Donc, je ne veux pas m'avancer pour tout le monde, mais...
Vous allez regarder maintenant.
C'est très bien payé. Mais ce n'est pas pour ça que je vais être député européen, je vous rassure.
Alors, vous êtes un nouvel impétrant en politique. On pose toujours des questions un peu basiques parfois. Est-ce que le montant du SMIC, Raphaël Glucksmann, vous le connaissez?
1200, enfin, 1180.
Non.
Non,
c'est en net, plus,
en brut.
Ouais,
c'est en brut.
Ça, c'est en brut.
En brut ou en net?
Le brut, c'est 1500.
Ouais, et 1180, c'est brut, net, 1180.
Alors, vous avez juste. Et le minimum vieillesse?
C'est 1000.
Non, c'est 800. Bon, vous êtes pas. C'est 880 euros. Marie-Pierre Haddad.
Oui.
Il faut réviser les fiches. En fait,
vous savez,
mais c'est important parce que ça paraît anodin, mais c'est vrai que pour les gens, c'est aussi une considération de leurs préoccupations, de leur quotidien.
C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je signale que dans les revendications des Gilets jaunes, vous m'avez pas demandé, il y avait la hausse justement du minimum vieillesse à plus de 1000 euros, à 1200.
Et vous êtes
favorable.
Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors dans les sujets aussi qui ont été abordés par les internautes, il y a celui de la journaliste Léa Salamé, qui est aussi votre compagne, qui a annoncé se mettre en retrait de l'antenne pour éviter justement tout soupçon de conflit d'intérêts. Donc ça a provoqué beaucoup de réactions tranchées. Il y en a qui ont compris sa décision. Il y en a d'autres qui ont dit, c'est dommage, c'est toujours aux femmes de se mettre en retrait. Est-ce que si vous êtes élu Raphaël Glucksmann, comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit sacrifier sa carrière ou pas?
Mais non, enfin là, l'enjeu, c'est juste le temps de la campagne électorale. Et le 28 mai, elle sera de retour sur. Mais elle sera de retour sur la règle, c'est ça, c'est la campagne électorale. Je veux dire, que je sois député à mener des combats au Parlement européen, je ne suis pas président de la République ou ministre de la République française. Je sais qu'il faut répondre
2000,
à toutes les questions.
2022, vous n'irez pas. Je sais que c'est vous qui avez parlé à Montreuil.
Je dois répondre à toutes les questions comme si je suis censé être ministre des Finances ou candidat pour être ministre de l'Intérieur de la France. Je vous rassure, et je rassure d'ailleurs les policiers, je ne serai pas ministre de l'Intérieur de la France dans deux semaines. Et mon but, c'est d'être parlementaire européen pour mener des combats à l'échelle européenne, pas de faire carrière politique en France. Moi, ça m'intéresse pas. Dans 10 ans, je serai pas un politique français qui aspire à être sous-secrétaire d'État à je ne sais quel
ministère.
Certains
veulent dire que c'est un passage éclair aussi que vous faites, alors.
Mais non, c'est de mener ces combats, et ces combats, ils doivent être menés à l'échelle européenne. C'est-à-dire, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui veut pas juste se recaser d'un échec aux élections législatives, aux présidentielles françaises, en allant au Parlement, moi, c'est le rêve de ma vie, c'est d'aller mener ces combats à l'échelle européenne. Parce que l'Europe, c'est mon existence, c'est mon horizon d'existence depuis que j'ai 20 ans. Je suis parti, je l'ai traversé, cette Europe. J'ai mené mes combats.
Dernière question de Marie-Pierre
Haddad,
Raphaël Glucksmann.
Oui, alors vous avez fait la une des Inrocks le 5 février dernier et vous apparaissez avec une doudoune de la marque Canada Goose, marque qui n'est pas du tout abordable pour tout le monde vu que les manteaux coûtent entre 900 et 1200 euros en moyenne et en plus elle a mauvaise réputation parce qu'elle est souvent accusée de faire de la torture animale. Est-ce que vous avez changé de manteau depuis?
Non seulement j'ai changé de manteau, ça c'est clair. En plus, bon, c'est un peu trop chaud pour le mois de mars, mais surtout, c'est cette doudoune qui a défrayé la chronique. Mmh. Je l'ai depuis la révolution de Maïdan, où il faisait moins 27, et où c'était quasiment une nécessité de survie d'avoir des manteaux de grand froid.
Et cette politique, ça vous a surpris ou vous vous dites, voilà, c'est le jeu?
On m'avait dit, fais gaffe, tu vas te taper des boules puantes tout de suite, partout. Je peux vous confirmer que c'est vrai.
Donc vous avez enlevé vos mots.
Franchement, quand vous êtes un athélo, c'est quand même vachement plus simple, l'existence. Mais la vérité, c'est que je m'en serais voulu toute ma vie de ne pas tout faire, tout tenter pour essayer de sauver cet avenir qu'on a et qui s'appelle l'Europe.
Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. C'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis.
Merci.
À la semaine prochaine.